Filmé à tout prix.
Bonjour Sven.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va, merci, ouais, et vous ?
Oui, ça va. Alors vous venez présenter au Festival Filmé à tout prix votre dernier film, Le Divan du Monde.
Ouais.
Un film dans lequel vous nous proposez d'entrer dans le cabinet du psychiatre Georges Federman, qui consulte des patients, des Français ou des étrangers, des réguliers ou des clandestins. Le dispositif que vous mettez en place, c'est vous filmez le face-à-face, en fait, en gros, et alors on voit ces patients qui s'enchaînent, certains reviennent plusieurs fois même, et voilà, c'est la relation que ce psychiatre a avec ces patients que vous filmez. Comment vous avez rencontré ce psychiatre qui est, on peut le dire, atypique, c'est un personnage assez incroyable?
Je l'ai rencontré en 2001 ou 2002. Je faisais un travail universitaire. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, je faisais un travail universitaire de sociologie qui m'a fait rencontrer énormément de psychiatres en ville, chez moi, à Strasbourg.
À Strasbourg, oui.
Et pendant que je cherchais un peu des clients potentiels pour mon projet, j'ai quelqu'un qui m'a renvoyé vers lui en me disant voilà, tu peux y aller, je pense qu'il va être ok pour te rencontrer, discuter avec toi, etc. Et en fait c'était le dernier, j'ai rencontré une vingtaine de psychiatres je pense en ville, et c'était le dernier que j'ai rencontré, et il a un peu chamboulé, si vous voulez, toutes les théories que j'avais élaborées, tout le travail universitaire que j'avais fait de recherche, etc. Il est un peu chamboulé, un peu secoué. Je ne vais pas dire que j'ai pas fini le boulot à cause de lui, mais voilà, je pense que ça a joué un peu. Et finalement, je me suis dit que ce que j'avais vu m'intéressait énormément et peut-être plus que tout le travail que j'avais fait pendant l'année.
Parce que moi, c'est un milieu que je connais pas, et donc j'ai pas encore commencé ma psychanalyse, donc j'ai pas eu de rencontre particulière pour le moment. Et voilà, vous nous amenez là où on ne peut pas être. Donc, dans la littérature, on a des fois des évocations. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer ce qu'il différencie dans sa manière de travailler des autres psychiatres que vous avez vus avant ?
Alors pour être honnête, j'y connais rien non plus. Je vais juste faire une précision. Comme ça, c'est la base et c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous avez parlé de psychanalyse, il n'est pas psychanalyste, il est psychiatre.
D'accord.
Et en gros, mais vous avez mis le doigt sur quelque chose d'important, c'est que donc il y a trois disciplines majeures qui sont un peu connues du grand public, qui sont la psychiatrie, la psychologie et la psychanalyse. On peut être psychanalyste, psychologue ou psychiatre. Le psychiatre est diplômé de l'école de médecine, a le droit de distribuer des médicaments, de faire des ordonnances, ce que les psychanalystes n'ont pas le droit. Et donc, alors je ne fais pas de thérapie, je ne suis jamais allé en thérapie, je n'avais jamais rencontré aucun psychiatre, je pense, avant ce travail universitaire. Par contre, j'avais été, si vous voulez, sidéré par la capacité je pèse mes mots, hein, je suis désolé. J'étais sidéré par la capacité de mimétisme en fait de toutes les personnes que j'avais rencontrées, qui étaient extrêmement d'accord sur un nombre de points très importants. Et puis chacun, voilà, avait par exemple ce qui m'avait le plus frappé. Chacun avait ces petites techniques pour que les patients, par exemple, ne se croisent pas. C'est-à-dire qu'ils prenaient, ils faisaient des sas temporels ou des sas physiques. Par exemple, pendant un quart d'heure, j'ai un quart d'heure de battement, il n'y aura pas de patient en salle d'attente. Donc personne ne va se croiser. Ou alors, tu rentres par une porte et puis tu sors par une autre porte sans recroiser le patient qui est arrivé pendant ce temps en salle d'attente. Je suis arrivé chez lui, enfin c'était l'antithèse, c'est-à-dire porte ouverte, tu pouvais te foutre en salle d'attente, il y avait 10 personnes qui attendaient, le mec avait 2 heures de retard, tout le monde s'énervait, parlait entre eux. Et puis c'était vraiment l'antithèse, c'est-à-dire vraiment le surcontact, peut-être trop de contact entre les patients avant de rentrer dans le bureau, alors que chez les autres, c'était vraiment... Enfin, tu pouvais y aller et te dire, voilà, ça va me prendre une demi-heure. Chez un autre psychiatre, hein, tu peux y aller, te dire, voilà, ça va me prendre une demi-heure, je vais dire ça, je vais repartir, ensuite je vais retourner au boulot, etc. Chez lui, il y avait un côté au petit bonheur, la chance, tu sais quand t'arrives, tu sais pas quand tu pars.
Et alors ça, en fait, pour moi, il m'est apparu cette différence, et il y a une sorte de puce à l'oreille. À un moment donné, il y a une femme qui dit, une des patientes, qui dit ah, tu veux que je refasse du café? Donc tu te dis,
c'est incroyable.
Tu dis, ok, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'espace cuisine. Et
il y a une relation qui va au-delà de la relation patient-médecin.
Ça, c'est hors champ. C'est un choix de réalisation ou c'est parce que techniquement, c'était pas possible de filmer cette partie du cabinet?
Non, parce qu'on ne quitte absolument pas le cabinet. Hein, du film.
On ne quitte pas du tout le cabinet, on ne sort pas du bureau. Moi, j'ai filmé dans tout le cabinet.
D'accord.
C'est-à-dire que ce film, j'ai commencé à le tourner en 2009. Donc les images que vous avez vues ont été tournées sur une durée d'un an et demi. Celle à l'intérieur du bureau. Pour des raisons pratiques, pour des raisons économiques, on ne pouvait pas tout filmer en même temps. Alors qu'il y a des moments où on avait évidemment envie de suivre le patient qui sortait, parce que ce qui venait de se dire était hyper important. Mais voilà, il y en avait tout de suite un autre qui arrivait, il fallait qu'on enchaîne le tournage. Mais on a filmé encore pendant un an après les images que vous avez vues, dans toutes les autres pièces du cabinet, la cuisine, la salle d'attente, le bureau de la secrétaire, qui sont des lieux très importants pour les patients, parce que ça crée peut-être justement un ensemble un peu différent que simplement le bureau et l'interaction qu'ils ont avec le psychiatre. Et mais après, quand on a vu les images, il y avait des super images. Enfin, moi, j'étais très intéressé par ça. Mais enfin, voilà, je veux dire, moi, je voulais aller à l'essentiel. Ce qui m'intéressait, c'était les patients, leurs histoires de vie, leurs relations avec ce psychiatre. Et finalement, nous sortir de cette relation-là, de cette interaction, pour aller s'attarder sur une personne en particulier ou sur un autre, juste pour faire des belles images parce qu'il est en train de fumer, parce qu'il est pensif dans la cuisine, c'était pas suffisant par rapport à ce que je voulais pour le film, en fait.
Et qu'est-ce qui vous a intéressé vraiment dans ce face-à-face entre le patient et Georges, enfin, qu'est-ce qui vous a intéressé chez les patients, parce que vous dites que c'est ça que vous vouliez vraiment filmer? Parce que c'est quand même, vous mettez dans une position qui est pas facile, qui est même un peu étrange d'aller à ce point dans l'intimité des gens.
Ce qui m'intéressait, moi, en termes de cinéma, très égoïstement, je pensais pas du tout aux patients, je pensais pas du tout aux médecins, je pensais qu'à moi. Ce qui m'intéressait, c'était que j'étais à la recherche d'un lieu où la parole était libérée et où les gens pouvaient parler, raconter leurs histoires de vie, la complexité des histoires, et où moi finalement j'avais aucune question à poser. C'est-à-dire, je m'immisçais pas, j'intervenais pas, c'est pas forcément là où je suis le meilleur quand j'essaye de faire dire des choses aux gens. Et là, moi qui veux travailler en cinéma direct, qui est vraiment le courant duquel je me sens le plus proche. Le cinéma direct, c'est un cinéma de la parole, évidemment, et avant d'être pour moi un cinéma de l'image. Et il faut évidemment des gens facilitateurs de cette parole qui permettent de la délivrer, qui permettent dans un univers clos, comme ça, avec des gens qui sont pas forcément, qui parlent pas forcément beaucoup d'eux, à part avec cette personne, qui s'ouvrent pas forcément aux autres. Il fallait quelqu'un qui déclenche cette parole. Ça ne pouvait pas être moi. Et Georges Federman, je pense que c'était le meilleur que je connaissais.
Est-ce que vous n'avez pas eu la tentation de la radio à un moment donné, d'ailleurs, pour capter ça, pour plusieurs raisons? Je veux dire, pour un anonymat pour les patients, mais aussi parce qu'il y a un côté statique dans ces images où ben moi, ça m'est arrivé de ne plus regarder l'image et d'écouter uniquement l'échange.
Évidemment. Alors encore une fois, pour être honnête, moi la radio, j'y ai pensé parce que je pensais que c'était les meilleurs en termes de son. Et je me suis dit, il me faut absolument une radio qui participe au projet parce qu'il me faut des ingé-sons béton, des mecs qui vont me capter la parole, qui auront le savoir-faire, etc. Moi, je suis un mec d'image. J'ai toujours aimé l'image. C'est l'image en mouvement, l'image fixe. Et la radio, connement, hein, pour moi, c'est autre chose. C'est pas, j'ai plus de mal, par exemple, avec les reportages radio ou les documentaires radio que j'entends, qui peuvent durer une heure, etc. Moi, c'est pas ma culture, j'ai extrêmement de mal à rentrer là-dedans. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les gueules, quoi. Les gueules, quoi.
Parce que vous dites que dans cet intérêt pour le cinéma en direct, il y a la parole. Je trouve que ce film est aussi rempli de silence, enfin de beaucoup de moments qui, par moments, m'ont mis mal à l'aise, non pas... Parce que c'est comme si les patients avaient encore le temps de réfléchir, et peut-être qu'ils leur donnent peut-être que ce psychiatre leur donne ce temps-là. Et puis par moments, en fait, à cause de l'image, ben moi, je vois ce médecin qui écrit sur ses papiers en même temps,
qui ouvre son courrier...
J'ai l'impression qu'il fait d'autres choses en même temps, et voilà, dans cette... je sais pas, dans ce quotidien, parce que lui, ça s'accumule, j'imagine, les visites, on a l'impression parfois une forme de déconcentration qui moi m'a questionné. Après j'ai compris que c'était plutôt une habitude d'être ensemble, j'ai l'impression, parce qu'il y en a, ça fait 25 ans qu'ils viennent le voir, donc j'ai l'impression que personne s'offusque. Mais vous avez fait vraiment le choix des fois de bien laisser ces moments là qu'est-ce que vous vouliez dire avec ces moments de silence intense qu'il y a entre le patient et son médecin?
C'est très intéressant parce que ça vient compléter ce que j'ai totalement oublié de dire par rapport à avant. C'était qu'effectivement, moi, en plus de la parole, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qu'il y avait autour, c'est-à-dire les non-dits, les silences. Et moi, au début, ça ne s'est pas fait du tout et ça ne se voit pas dans le film. J'ai longtemps travaillé pendant plusieurs mois pour dépasser en fait la parole, pour aller chercher le non-dit sur les visages, sur les corps, sur les fringues. Ça peut être un bijou, ça peut être une cicatrice, ça peut être une tache de ketchup qu'on n'aurait pas nettoyée, ça peut être deux, trois couches de fringues qui sont super bien dissimulées sous un beau costume. Enfin, et c'était vraiment ça que j'essayais d'aller chercher avec ce film-là. Et je voulais absolument filmer parce que pour moi, les silences sont beaucoup, beaucoup plus importants presque. Enfin, ils ne sont pas plus importants, mais ils sont très importants dans la mesure où le silence, c'est vous qui mettez ce que vous voulez dedans. Et c'est pas, on ne vous est pas guidé par la parole. Ce silence-là, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Et moi, j'avais vraiment envie de laisser, malgré le fait que ce soit un film de parole où les gens parlent beaucoup, je voulais vraiment laisser de l'espace en fait, au spectateur pour qu'il ait lui aussi envie de s'impliquer dans ces histoires de vie, envie de comprendre ces gens, de peut-être avoir envie d'en savoir un peu plus.
On a comme l'habitude de les voir. En fait, ça, vous avez bien fait ce montage temporel où les gens reviennent et on les voit sur ces visages aussi parfois évoluer. On voit des gens qui vont mieux. Et ça se voit.
Oui, il y a notamment cette dame qui revient à la fin, qui a tout changé. Parce que je pense que vous ouvrez le film quasiment avec elle. Et en fait, elle est radieuse à la fin du film.
Un mot, Thibaut, peut-être sur des personnages qui t'ont plu, tu m'as dit, non?
Mais moi, j'ai été extrêmement touché par cette dame qui vient avec son mari. C'est pour moi un personnage qui est essentiel dans le film, parce qu'en fait, ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est qu'il y a une troisième personne qui est spectateur avec nous de la situation. Et moi, j'ai pas pu me décrocher de son mari qui la regarde avec insistance. En plus, Georges, il le prend toujours à partie, quoi. C'est vraiment... Et en plus, j'ai adoré le rapport qu'il a avec elle. C'est-à-dire, c'est lui qui en est dit « Écoutez, si votre supérieur hiérarchique est une merde, voilà, c'est une merde.
Elle est conne,
c'est pas vous la merde. Elle va pas être encore plus conne qu'avant. » Et voilà, ce personnage-là m'a marqué. On a presque envie qu'elle s'en sorte. On ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est pour moi une réussite, en tout cas dans le film. Après, voilà, il y a d'autres personnages comme... vous mettez en avant souvent dans le résumé du film qu'il y a aussi des clandestins. Il y a ce Mauritanien qui a un parcours assez fort. On se demande même parfois... en fait, c'est marrant parce que moi non plus, je ne connais pas le monde de la psychiatrie, mais on se demande comment le personnage central du film, c'est-à-dire le psychiatre, arrive à passer d'un patient à l'autre. C'est assez... il jongle avec les destins de différentes personnes de manière parfois assez magistrale et sans forcément modifier lui-même son comportement. Il est toujours égal à lui-même. C'est assez... voilà.
Ce qui est bizarre, c'est que pour moi, c'est comme si cette entrée dans ce monde-là m'a fait comprendre que peut-être que la psychiatrie, c'est pas vraiment trouver des solutions, mais aider juste les gens à... Comme, on dirait que c'est une sorte de soutien amical plus fort que... de discussions un petit peu plus intenses, mais pas forcément beaucoup plus, juste pour maintenir la vie, enfin un truc comme ça, bizarre. Quelle était votre impression à vous ?
Évidemment, il y a des patients qui ont plus ou moins besoin d'un médecin, tandis que d'autres ont plus ou moins besoin d'un ami, d'un conseilleur, de quelqu'un qui vient les soutenir dans des moments difficiles. Et je pense que c'est des choses qui viennent avec l'habitude, c'est des relations qui se créent en fait lui-même avec ses patients en fonction de ce qu'il pense que ces gens la recherchent. Il y a des gens avec qui il va avoir une proximité intellectuelle, il va les tutoyer, il va s'approcher d'eux assez facilement, tandis que d'autres il va les garder à distance tout le temps, il va rester froid, il va les vouvoyer, parce qu'il sait que ces gens-là, voilà, c'est pas ce qu'ils recherchent, d'un autre côté ce qu'ils veulent, c'est un médecin qui les guérisse d'une certaine manière, etc. Donc voilà, ouais, un peu l'idée.
Peut-être une dernière question avant de passer à la suite. Comment il a pris votre demande d'être filmé? Il a accepté tout de suite, le psychiatre, George Federman, ou ça a pris du temps?
Tout de suite.
Tout de suite.
C'est la... J'ai demandé à la seule personne dont je savais qu'elle allait accepter, au seul psychiatre dont je savais qu'il allait accepter tout de suite, sans me faire chier.
Est-ce que vous pensez que parfois il s'est mis un peu en spectacle ou pas?
Ah, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... Qui ne se met pas en spectacle? Moi, je... Et... Il est vraiment en dehors de la caméra pour moi. Je le connais que comme ça. Il est... Ce que je voulais voir, c'était comment ce personnage un peu public, semi-public, appliquait tout ce qu'il disait en public. Il pouvait l'appliquer dans son travail, dans un lieu privé au quotidien. Et il ne changeait pas. Et on avait, juste pour conclure, on avait un deal aussi avec les patients qui était de se tenir informés tous, concrètement. Et il était hors de question que j'aille seulement voir le médecin pour lui demander... Si c'était une bonne idée de filmer tel patient, il fallait absolument que j'aie la réponse du patient qui me disait si le médecin se donnait trop en spectacle ou avait changé dans la relation de leur thérapie, etc. J'avais vraiment besoin de leur feu vert pour continuer à travailler à chaque fois comme ça avec eux, et ça s'est toujours bien passé. Il nous a toujours soutenus.
Ça s'appelle Le Divan du Monde. C'est réalisé par Sven Depau. Merci d'être venu, Sven. Ça passe ce soir. Maintenant, quasiment, c'est à 18h15.
Alors il faut se dépêcher.
Il faut se dépêcher pour venir.
Mais il faut venir. Et vous pouvez louper les 5 premières minutes et ils vous laisseront rentrer. C'est pas grave. Venez et dites, on a parlé de sujets super lourds. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas un film hyper lourd. Moi, je trouve que c'est un film qui met la pêche et qui est plutôt, voilà, qui est plutôt rock'n'roll. Donc flippez pas, venez et puis venez tchatcher avec nous. FATP.be.